affinités électives. Une émission proposée par Canal Académie.
Larouzière avait entrepris d'écrire ce petit livre avant la crise du coronavirus. Il part d'un constat. Dans les classements internationaux, la France se trouve au bas des performances économiques. Nous nous sommes profondément désindustrialisés, tout en augmentant massivement l'appareil d'État, la dépense et les prélèvements publics, écrit-il dans la préface. Fort de son expérience, il cherche à comprendre les causes de ce glissement et surtout à proposer des solutions. Il regarde ce qui se passe chez nos voisins, notamment en Allemagne. Cela donne 40 ans d'égarements économiques, quelques idées pour s'en sortir aux éditions Odile Jacob. Jacques de la Rosière est membre de l'Académie des sciences morales et politiques. C'est un habitué de Canal Académie. Bonjour.
Bonjour.
Alors, dans votre réflexion, vous avez dû intégrer cette crise du coronavirus. Comment a-t-elle trouvé place dans votre pensée et dans cette lecture de la situation économique de la France?
Oui, le coronavirus a été à la fois un révélateur et un accélérateur de nos insuffisances. Un révélateur parce que nous avions tous l'impression que nous avions peut-être le meilleur système sanitaire et social du monde, fut-il un peu coûteux, mais on était très fiers de ce système. Et la révélation est la suivante, c'est que quand le coronavirus a frappé, et a frappé d'une manière, je dirais, imprévisible, ce système sanitaire ne s'est pas révélé aussi efficace que ce qu'on aurait souhaité et que ce que ont révélé d'autres pays, en particulier l'Allemagne. Le système a été moins réactif, moins capable de produire vite des tests systématiques et sur le plan hospitalier, insuffisant en matière de système respiratoire. Et on peut aussi ajouter que la symbiose indispensable entre les médecins généralistes, d'une part, et d'autre part, le système hospitalier pour traiter les malades du virus, a été très défectueux. Alors qu'en Allemagne, tous les médecins de ville, tous les médecins généralistes ont été dotés dès les premiers jours du virus de ces kits, de ces systèmes qui permettent d'équiper les médecins en tests de diagnostic, si vous voulez. Et la collaboration entre les cliniques privées, les dispensaires et les hôpitaux ne s'est pas du tout révélée efficace. Donc, c'est un révélateur d'insuffisance. Et par ailleurs, le système hospitalier coûte cher en France. Il est doté financièrement d'une manière abondante. Et ce qui le caractérise, c'est une certaine inefficacité dans l'ordre opérationnel et un surcroît de superpositions hiérarchiques qui prennent beaucoup de temps et qui mobilisent malheureusement l'énergie des personnels soignants beaucoup, beaucoup trop. Et puis ça a été un accélérateur parce que comme nous étions à la veille de la crise du virus parmi les pays les plus vulnérables en matière de dépenses publiques, nous avions une dette publique qui était de 100% du PIB alors qu'en Allemagne c'était 60%. Nous avons été obligés comme tout le monde de mettre en place des dispositif d'aide à la population, et en particulier le chômage partiel, pour compenser l'absence de salaire provoquée par la fermeture d'entreprises, par l'arrêt de toute une série d'activités. Et évidemment, c'est tombé sur un terrain fragile, cette abondance de dépenses supplémentaires. Et donc, ça a accéléré, si vous voulez, puisque les dépenses étaient malheureusement inévitables, ça a accéléré la détérioration de nos finances publiques.
Alors, vous parlez d'insuffisance, de carence. À quand remonte, selon vous, ce décrochage français ?
Écoutez, c'est assez difficile de répondre à cette question pourtant fondamentale. Les carences et les retards que j'analyse dans ce petit ouvrage remontent en gros à 40 ans, c'est-à-dire à la fin des années 70. Et ça coïncide avec les crises pétrolières que nous avons eues. Nous avons eu deux crises pétrolières, une en 73 qui a quadruplé le prix du pétrole et l'autre en 79, donc dans la deuxième partie des années 70. Ce renchérissement du pétrole et de tous les hydrocarbures a évidemment pénalisé notre économie, qui était très, très habituée à avoir du pétrole pas cher. Mais c'est vrai pour toutes les économies qui ne produisaient pas d'hydrocarbures, qui en importaient. Et nous avons été particulièrement touchés par cette crise pétrolière. Et au lieu de répondre très efficacement à cette crise, en laissant par exemple les prix du pétrole à la distribution être impactés par la hausse des prix à la production du brut, nous avons essayé de réduire la charge fiscale de la taxe des produits pétroliers de façon à compenser un peu la hausse des prix du pétrole. Nous avons essayé de modérer l'impact de la crise, ce qui était socialement acceptable. Mais au point de vue de l'efficacité d'un système qui repose sur les incitations et sur l'incitation en particulier à économiser les hydrocarbures, ce n'était pas la meilleure solution. Et d'autres pays ont été plus directs, si vous voulez, dans la transmission vers la consommation des hausses de prix à la production. Mais ceci ne rend pas compte de la raison pour laquelle, comme vous le demandez très justement, nos classements, la qualité de notre système économique a dérivé depuis cette époque. Je pense qu'il y a plusieurs choses qui sont d'ailleurs esquissées dans le livre. La première chose, c'est que nous n'avons pas vraiment pris au sérieux la dérive budgétaire qui a marqué toute cette période de 40 ans. Certes, nous avions conscience que nos finances publiques dérivaient vers le déficit accumulé, et donc vers la dette publique, mais nous n'avons pas considéré que c'était un élément important. Or, c'était un élément important. Pourquoi ? Parce que plus vous augmentez la dépense publique, et donc le déficit, plus vous augmentez la dépense publique, plus vous êtes obligé d'augmenter les impôts, c'est-à-dire les charges qui pèsent sur le pays, ce qu'on appelle les prélèvements obligatoires. Et plus on augmentait la dépense publique, plus on laissait aller les déficits, plus on était obligé d'augmenter la charge des prélèvements obligatoires. Et petit à petit, parce que ces phénomènes ne se produisent pas en un jour, petit à petit, on s'est aperçu que nos prélèvements obligatoires étaient sans commune mesure avec ce que connaissaient des pays voisins qui étaient nos compétiteurs et qui travaillaient dans une union monétaire avec nous. Et aujourd'hui, par exemple, nos prélèvements obligatoires sont de l'ordre de 46% de notre produit intérieur brut, alors qu'ils sont de l'ordre de 36% dans un pays comme l'Allemagne, c'est-à-dire 10 points de produit intérieur brut de différence. Et 10 points de différence pour des pays qui travaillent en concurrence dans le même milieu, si vous voulez, de la compétition internationale, c'est la différence entre la vie et la mort. Entre je vends ou je ne peux pas vendre. Et donc, cette dérive budgétaire, alors il faut essayer de la comprendre. Je crois, comme je vous l'ai dit, qu'on n'a pas réalisé dans les milieux gouvernementaux et parlementaires quel était le danger mortel de cette dérive. Il y avait un certain keynésianisme ambiant qui pouvait aussi expliquer cela, parce qu'on disait c'est toujours bien de relancer l'économie avec du déficit budgétaire. Mais en réalité, la recette keynésienne, qui est une recette très efficace et qui a changé le cours des choses depuis la période où Keynes a opéré, cette recette n'est pas une recette permanente. Keynes a toujours expliqué que c'était dans les périodes de récession qu'il fallait stimuler l'économie par des déficits budgétaires, mais pas année après année. Or, nous l'avons fait année après année, d'une manière systématique. Et donc, nous n'avons pas répondu à l'objectif keynésien. Nous avons introduit un biais de glissement systématique de la dépense publique. Alors, donc, il y a eu une erreur de jugement. Et il est évident que la démagogie, c'est-à-dire le désir de plaire à l'opinion publique, en n'augmentant pas trop les impôts, en augmentant le nombre de fonctionnaires, etc., a joué un rôle important. Et le passage de la retraite de 65 ans à 60 ans en 1981-82 a été un élément très important qui a poussé la dépense publique en France et qui a donc altéré la qualité de notre dépense publique. Il faut savoir que la fonction publique, le nombre de fonctionnaires en France dépasse de beaucoup ce qui serait normal en faisant des études comparatives avec d'autres pays du même type. Et c'est un excédent d'au moins 200 000 fonctionnaires qui existent et qui pèsent sur la dépense publique et donc sur le budget. Alors, donc, si vous ajoutez la réaction insuffisante à la hausse des prix pétroliers, si vous ajoutez l'indifférence que les pouvoirs publics, les gouvernements successifs ont porté à ce glissement permanent de la dérive budgétaire, si vous ajoutez le keynésianisme mal compris, mais assez populaire dans les milieux de l'intelligentsia française. Et si vous ajoutez la simple démagogie, c'est-à-dire le désir de plaire à l'électorat, vous pouvez comprendre pourquoi le système s'est déréglé. Mais c'est quelque chose qui n'a pas toujours existé. Le général de Gaulle, par exemple, ne concevait pas que le budget ne fût pas équilibré. Et la réforme qu'il a faite en 1958 a permis de rééquilibrer les comptes. Donc, c'est pas écrit dans le ciel que la France est vouée à un déficit permanent, à une obésité administrative non contrôlée. C'est pas du tout écrit dans le ciel. C'est écrit, malheureusement, dans la manière dont les dirigeants ont cru régler les choses depuis 40 ans.
Effectivement, certains ne considèrent pas tout ce déficit comme un problème en disant que les taux d'intérêt sont bas ou que nous pouvons aussi faire marcher l'aspect monétaire. Et vous êtes assez opposé à ces idées.
Oui, c'est-à-dire que quand vous entrez dans ce phénomène de la détérioration de vos comptes publics et que vous trouvez finalement normal que l'État emprunte sur les marchés pour payer les fonctionnaires en fin de mois, parce que c'était pas pour financer des investissements d'infrastructures qui auraient été productifs à terme et qui auraient pu générer de la ressource budgétaire petit à petit, ce n'est pas pour ça qu'on l'a fait. On l'a fait pour simplement régler les déficits. 90% des emprunts que nous avons réalisés dans le domaine public ont été affectés à des dépenses de fonctionnement et pas à des dépenses d'investissement. Donc quand on fait ça, on augmente la dette publique et on affaiblit la capacité productive du pays, parce que ce qu'on a emprunté pour financer la dépense publique courante, on ne l'a pas emprunté, ou le marché ne l'a pas emprunté, les investisseurs privés ne l'ont pas emprunté pour faire des projets productifs. Et donc il y a eu un déplacement de l'investissement vers la dépense publique et hors de l'investissement productif, proprement dit, qui est la source de la croissance potentielle de tout pays. Alors, aujourd'hui, face à ce problème de l'excès de la dépense publique et de l'obligation qu'a l'État d'emprunter pour assurer ses fins de mois, on en arrive à dire que finalement, ça n'a pas d'importance. Parce que la politique monétaire étant ce qu'elle est, c'est-à-dire très libérale, très généreuse, les taux d'intérêt sont devenus égaux à zéro. Et voire maintenant, pour les bonnes signatures, ils sont devenus négatifs. Et donc, la réaction à ce que je viens de vous dire dans la première partie de notre entretien, c'est-à-dire les finances publiques françaises ont dérapé d'une manière dangereuse et qui a provoqué des augmentations inconsidérées de nos prélèvements obligatoires. À cela, les théoriciens modernes, enfin qui se disent théoriciens et qui se disent modernes, ce que je conteste sur les deux points, vous disent mais ça n'a pas d'importance puisque l'État peut emprunter à taux zéro. Et donc, le fait qu'on soit en plus grand déficit n'a aucune importance puisque ça ne coûte rien. Alors, je ne crois pas du tout à cette thèse. Je pense que tout cela se payera un jour. Je pense que le fait d'avoir des taux d'intérêt à zéro ne peut pas durer indéfiniment et qu'un jour ou l'autre, ils vont se relever et qu'à ce moment-là, le profil, si vous voulez, de la dépense publique sera très compromis parce qu'en plus de toutes les dépenses que nous avons accumulées, il faudra dépenser davantage pour payer les intérêts. Et donc, je suis en effet assez critique à l'égard de la pratique de la politique monétaire actuelle. Alors, je peux développer ce point si vous le souhaitez, ou bien je peux passer à autre chose si vous le jugez utile.
Eh bien, je pense que nous allons parler d'une autre idée reçue que vous pourfendez. C'est celle d'une désindustrialisation de la France vue comme une fatalité.
Oui, alors c'est un phénomène qui est très grave et qui est peut-être le plus dangereux de ce que nous observons. Parce que il est exact que la France s'est désindustrialisée depuis 40 ans. Le taux d'industrialisation, si vous voulez, est passé de 18% du produit intérieur brut à quelque chose comme 7 ou 8%. Donc ça a été une baisse très significative et qui n'est pas retrouvée dans un pays comme l'Allemagne, par exemple, qui est resté à 24% pendant toute la période considérée et qui n'a pas décliné. Alors, pourquoi est-ce qu'on s'est désindustrialisé ? Pour une raison très simple, c'est que les entreprises industrielles ont été tellement chargées par les prélèvements obligatoires dont j'ai parlé, les fameux 46%, 10 points trop élevés, ont été tellement chargées par ces prélèvements obligatoires que elles ont souffert dans leur compte d'exploitation et qu'elles n'ont pas pu dégager, compte tenu des impôts qu'elles devaient payer et des charges sociales qu'elles devaient payer, elles n'ont pas dégagé des marges bénéficiaires suffisantes pour se tourner vers l'investissement. Parce que quand vous êtes une entreprise industrielle, il ne faut pas croire que vous avez un capital industriel et puis que c'est fini. ce capital industriel, il se périclite, il s'obsolète, il faut le remplacer, il faut l'amortir. Et donc, il faut dégager, en dehors des bénéfices courants, il faut dégager un bénéfice suffisant pour financer l'investissement. Or, nous n'avons pas eu des marges bénéficiaires qui nous ont permis de le faire. Marge bénéficiaire, pour celui qui lira mon livre, verra qu'elle gravite autour de 25 à 30%, alors que chez les compétiteurs, c'est plutôt 40-45. Et donc, la raison de la désindustrialisation, elle est dans le premier chapitre que nous avons abordé tous les deux au début, c'est-à-dire dans la dérive de la dépense publique. Et ça me permet de revenir sur la notion essentielle qui est la suivante. En France, le déficit budgétaire est toujours considéré comme une résultante, comme un sous-produit. On a des politiques qu'on apprécie, on a la politique agricole, on a la politique culturelle, on a la politique de défense, enfin, on a toute une série de politiques. Et on s'attache à réaliser ces politiques et à les financer. Le budget est considéré comme la résultante de tout ça. Ce n'est pas l'équilibre ou le quasi-équilibre budgétaire ou la stabilité budgétaire n'est pas considéré comme un objectif. C'est considéré comme la résultante. Et c'est parce que on a laissé le budget dériver que on s'est installé dans l'idée que, au fond, le budget, ce n'était pas important. Mais le budget, c'était essentiel, parce qu'il fallait le financer avec des impôts et des charges sociales. Alors, donc, la désindustrialisation est arrivée. Aujourd'hui, on nous dit, mais ce n'est pas grave, la désindustrialisation. C'est compensé par une économie de services. Alors là, il faut faire très attention. Et je recommande de lire les pages de mon livre qui sont consacrées à ce sujet. Il y a service et service. Si les services ne comportent que des services publics, le recrutement de fonctionnaires ou des personnels, certes très utiles, mais qui sont des personnels, si vous voulez, d'assistance à la vieillesse ou des personnels de vente dans les magasins, etc. C'est très utile. Mais ce n'est pas ce qui va remplacer l'industrie. Parce que l'industrie, elle a un avantage par rapport aux services que je viens de signaler, c'est qu'elle est génératrice d'innovation. Vous ne pouvez pas subsister, si vous êtes un industriel, si vous ne rééquipez pas votre système régulièrement. Et donc, ces facteurs de progrès, ces facteurs de recherche, ces facteurs d'investissement. Et malheureusement, dans les services, il y a aussi des services de très haute qualité intellectuelle et qui comportent des innovations. Mais ce sont des services qui peuvent être dans le domaine financier, dans le domaine de la logistique, dans le domaine de la stratégie industrielle. Mais ces services, malheureusement, ne se sont pas développés en France, contrairement aux services que j'indiquais, qui sont plus des services d'accompagnement de la société. Et donc, nous avons perdu le fer de lance industriel et nous n'avons pas récupéré sur les services. Alors, nous l'avons bien vu au moment du Covid. Est-ce que c'est la France désindustrialisée ou est-ce que c'est l'Allemagne industrialisée qui a réussi à sortir un vaccin? Vous le savez, c'est l'Allemagne. Et moi, je regrette que nous n'ayons pas une industrie qui soit capable de concourir sur le plan de la compétition internationale comme nous le pouvions. Enfin, c'est le pays de Pasteur dans lequel nous sommes. Et donc, cette désindustrialisation est malheureusement un signe très grave. Nous avons une administration pléthorique, je dirais une administration obèse, et donc inefficace. et nous avons une industrie que nous avons perdue en grande partie.
Sur l'administration, vous parlez de l'effet des politiques de décentralisation qui a été extrêmement important.
Oui, parce que nous avons pratiqué, comme beaucoup d'autres pays, depuis très longtemps, des politiques de décentralisation. C'est-à-dire qu'on a voulu rapprocher les fonctionnaires publics, l'administration, des administrés, en renforçant les collectivités locales. Ce qui n'était pas une mauvaise idée. Et ça a commencé avec la réforme de Fer et ça a continué tout au long de ces 40 ans. Mais le problème, c'est que nous avons mal conduit cette décentralisation parce que nous n'avons pas pratiqué une politique d'efficacité, en ce sens que la décentralisation, ça consiste à enlever du centre de Paris des ministères, des compétences et à les envoyer en province, dans les régions ou dans les départements. Et quand on fait ça, on s'attend normalement, quand on est un être, je dirais, normal, on s'attend à ce que celui qui délègue les choses du centre vers la province diminue ses dépenses, puisqu'il ne les a plus, ses responsabilités. Et en réalité, quand on regarde l'histoire du financement de la décentralisation, on s'aperçoit que le centre qui a délégué, qui a perdu un certain nombre de responsabilités au profit de la province, n'a en fait en rien diminué ses dépenses. Et donc ça ne s'est pas du tout fait à coût nul, ça s'est fait à coût augmenté. Et ça a été une des raisons d'ailleurs de la dérive budgétaire dont nous avons parlé tout à l'heure. Et c'est un véritable scandale parce que n'importe quelle entreprise privée ou n'importe quel ménage privé qui gère son propre budget vous dira que c'est impossible de transférer des responsabilités mais de pas transférer le financement. Et pourtant, c'est ce que nous avons fait. Et puis, comme notre transfert n'a pas été très efficace, il a été très dévorateur de nouveaux fonctionnaires locaux qui ont excédé, si vous voulez, en nombre ce qui aurait été normal. Et donc, le système s'est beaucoup alourdi. Et loin d'être un facteur d'efficacité sociale et administrative, la décentralisation française a été un facteur d'obésité accrue.
Alors, vous nous avez décrit cette situation qui a de multiples aspects, et on le comprend bien, qui procède vraiment de phénomènes sur le long cours. Vous pensez pourtant qu'il y a des solutions?
Oui,
lesquelles?
Parce que je suis, cher ami, un optimiste invétéré, et je pense qu'il y a des solutions. Alors, ces solutions, elles gravitent autour de... Je vais simplifier, parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. Elle gravite autour de deux choses. Les fameux 10 points de PIB qui sont le boulet supplémentaire que nous avons à la cheville et qui nous empêchent d'être dans la course mondiale. Ce boulet de 10 points de PIB, en gros, il concerne deux choses. Il concerne notre régime de retraite, qui est très lourd en financement, et il concerne notre administration. Alors, un mot sur chacun. C'est à peu près 4 points de surcroît dans les retraites et 5 points de surcroît dans l'administration. Donc ça fait à peu près les 10. Et si on veut s'attaquer au problème avec un esprit optimiste et d'efficacité, il faut toucher ces deux sujets-là. Alors, sur les retraites, nous avons un véritable problème démographique, c'est-à-dire que nous n'avons plus assez de jeunes cotisants pour payer les retraites par répartition, avec des retraités qui sont en nombre plus important, parce que c'est les baby-boomers qui maintenant prennent leur retraite. Et donc, il faut à ce problème démographique une solution démographique qui est très simple et qui consiste à faire travailler les Français un peu plus longtemps, puisqu'ils vivent plus longtemps en bonne santé. Et nous avons, comme vous le savez, une retraite avec départ obligatoire à 62 ans, alors que tous nos voisins, qui ont des systèmes beaucoup plus adaptés, font partir les gens à 65 ans, voire à 67 ans. Et si nous ne faisons pas cet effort, qui est un effort qui s'est produit sans drame dans tous les pays européens, il n'y en a pas un qui échappe à cette règle, si nous ne faisons pas cet effort, nous allons continuer à avoir un surpoids dans notre système de retraite. Et la réforme que préconise le gouvernement, qui est une réforme de points, qui est une réforme technique, qui est une réforme unificatrice des 40 régimes, ne traite pas le sujet de l'allongement de la période de cotisation des personnes qui sont au travail. Donc je dis, si vous voulez régler ou commencer à régler les problèmes qui sont décrits dans ce livre, il faut commencer par mettre la retraite à 65 ans. Et la deuxième chose, c'est l'administration. L'administration, c'est 5 points de PIB de lourdeur. C'est l'obésité dont nous avons parlé. Alors, pour régler ce problème de l'obésité, il y a deux manières. Ou bien on dit, oh ben on va supprimer 10% de tous les services dans tous les ministères et on aura le résultat cherché. Ou bien on dit, on ne remplacera que un des départs à la retraite sur deux, par exemple. Ce sont des méthodes globales. J'ai beaucoup de scepticisme à l'égard de ces méthodes, parce que je pense qu'elles ne règlent pas le sujet en profondeur. Vous ne pouvez pas dire à un obèse, bon, tu vas perdre 10% de poids. Ce n'est pas comme ça qu'on y arrivera. C'est en regardant les causes de l'obésité et en traitant sérieusement le sujet. Et alors, comment faire ? Je pense qu'il faut pratiquer la méthode suédoise ou la méthode des pays nordiques, qui consiste à considérer que le budget n'est pas la transposition dans le temps de tout l'existant administratif. En France, c'est ça. On a les services qui existent. Ils ont été votés, d'ailleurs, dans les budgets précédents. On appelle ça les services votés. Et on les emmène dans la temporalité vers l'année suivante et l'année suivante encore, etc., avec des pourcentages d'augmentation qui sont négociés au niveau de Bercy et qui sont ce qu'on appelle le point d'indice des fonctionnaires. Si on fait ça, on ne réglera jamais le problème. Ce qu'il faut, c'est faire adopter la méthode nordique. Et la méthode nordique, ça consiste à charger chaque ministère et dans chaque ministère, chaque service, et dans chaque service, chaque sous-service, de les charger de se reconsidérer, de se remettre en question. Si j'avais à faire le budget à partir de zéro, est-ce que je recréerais à l'identique toutes ces strates administratives ? Et la réponse sera non. La réponse sera, le monde a changé et les strates qui se sont accumulées, il faut s'en débarrasser dans certains cas, ou dans de nombreux cas, et donc mettre les budgets à plat. Alors certes, on ne va pas faire ça en un jour, ça serait la révolution générale, mais on aurait un objectif de ce qui est souhaitable dans la configuration des ministères et des services. Et à ce moment-là, ayant cette perspective, on pourrait l'accompagner, cette action, par des méthodes transitoires qui consisteraient, année après année, avec les départs à la retraite, à restructurer, à refigurer, si vous voulez, ces services en fonction des objectifs qu'on se serait créés. Et en l'espace de 5 ans, on aurait déjà résolu peut-être la moitié du problème que je vous indique. Et donc, je pense que c'est soluble. Mais qui va décider qu'à l'avenir, on va remettre à plat les budgets et qu'on va considérer l'intérêt public, et non pas l'intérêt des entités administratives, mais l'intérêt public comme le guide absolu ? Qui va le décider ? Normalement, c'est le gouvernement et le Parlement. Et ça paraît logique, puisque tout le monde aurait envie de cela. Si vous interrogez n'importe quelle personne dans la rue, elle vous dira qu'elle serait d'accord avec cette méthode. Malheureusement, en France, et ça, je parle avec le manque de précaution qui caractérise un homme libre, malheureusement, en France, les hommes politiques ne sont pas très intéressés par ce que je viens de dire. la mise à plat des budgets, la reconsidération de tous les services en fonction de l'intérêt national. Ce n'est pas ça qui les intéresse. Ce qui les intéresse, c'est être réélus dans l'espace de 5 ans qui séparent leur élection de leur réélection. Et ils ne considèrent pas que la mise en route d'une réforme qui va mettre 10 ans à porter tous ses fruits est un facteur tellement positif dans leur équation personnelle. Et je crains que nous ne soyons pas à la veille de ces réformes. Mais ces réformes sont possibles. Ces réformes, on peut les dessiner, les étudier et les mettre en œuvre. Je pense que la France est un pays réformable, contrairement à ce qu'on dit, et que ce qu'il faut, c'est la volonté et la persévérance, parce que ça demande beaucoup de volonté. J'ai remanié un service dans ma vie professionnelle, et je peux vous assurer que je n'ai pas chômé. C'était jour et nuit que j'ai pu réussir. Et donc ça, il faut se retrousser les manches. Et c'est la conclusion que je voudrais faire ressortir de notre entretien.
Et pour finir, nous pourrions parler de la jeunesse dont il est beaucoup question ces temps-ci. Vous consacrez un chapitre à l'éducation en insistant sur l'importance des classes maternelles et primaires. Vous parlez aussi des problématiques du chômage pour les jeunes.
Absolument.
Qu'est-ce que vous préconisez pour cette jeunesse ?
Oui, mais ça dérive de tout ce que j'ai dit. Parce que si vous avez un système qui est trop lourd du point de vue de la dépense publique, vous avez par définition trop de charges obligatoires, trop de charges sociales, et les entreprises se désindustrialisent. Or, quand une entreprise se désindustrialise au niveau français, c'est-à-dire qu'on est passé de 18 à 8 ou à 7 % du PIB, c'est de la macroéconomie énorme. Si vous faites ça, vous avez un effet chômage immédiat, parce que les entreprises industrielles qui n'existent plus, ben, elles ne recrutent plus. Or, l'emploi industriel est un emploi particulièrement intéressant pour les jeunes, parce que qui dit emploi industriel dit emploi de service associé à l'industrie. L'industrie, elle a besoin de services. Et donc, on peut calculer le nombre de millions d'employés qu'on a perdus en laissant perdre notre industrie. Donc les jeunes sont victimes de cette politique de l'abus du prélèvement obligatoire. La retraite à 60 ans, qui a été instituée en 1981 par un gouvernement démagogique, est une réforme anti-jeunesse. Pourquoi ? Parce que le jour où la démographie change et où il y a plus de seniors qui viennent toucher leur retraite et moins de cotisants jeunes pour la payer, qu'est-ce qu'on fait ? On ne touche pas les vieux qui vont avoir leur retraite. On charge les jeunes cotisants de cotisations accrues. Et c'est ce qu'on a fait pendant 15 ans. On a chargé les cotisations des jeunes. Maintenant, elles sont tellement chargées qu'on a arrêté ce jeu délétère et que c'est le budget de l'État qui se voit transférer le coût de ces charges. Mais la politique que l'on mène à l'égard du problème des retraites, et en particulier à l'égard des réformes qui sont envisagées, ça consiste à déplacer le curseur vers l'avenir. On dit non, on ne va pas toucher les retraités, on ne va pas toucher les cotisants actuels, ils ont l'habitude de leur système, mais c'est quand dans 10, 15, 20 ans, on aura des nouveaux jeunes qui entreront dans le système pour cotiser, qu'on va les charger. Et comme ils ne sont pas électeurs, ceux-là, pour le moment, on peut se permettre de le dire, mais on les laisse à la porte et on les charge dans l'avenir. Donc moi, je suis pour aider les jeunes, pour les mettre au centre du dispositif, pas leur dire dans 20 ans, on verra. Et donc, je pense que nous avons œuvré pour l'existant, du point de vue du corps électoral, et contre les nouveaux venus. Alors, les nouveaux venus, ils ont frappé à la porte de l'emploi. Et ils ont eu des CDD, de plus en plus, et moins de contrats à durée indéterminée, ou bien on les a laissés être chômeurs et être des fidèles de Pôle emploi. Et je trouve que ce n'est pas la manière de traiter les jeunes. Et c'est vrai pour l'éducation. L'éducation, comme vous l'avez évoqué, elle est conductrice d'inégalités, parce que on sait très bien que les inégalités sociales, familiales, qui existent, qui sont sociologiquement prouvées, c'est quand on est dans une famille qui a des parents plutôt bien éduqués, ben on a plus de chances de réussir dans la vie que celui qui vient d'une famille pauvre et illittérale. Mais c'est accusé, cette inégalité, je dirais foncière, est accusée par le système scolaire. On a montré, il y a des études très, très intéressantes qui sont parues sur ce sujet, on a montré que l'école était un facteur d'accélération des inégalités sociales. Parce que loin de compenser l'inégalité de l'élève qui sort d'un milieu vraiment très, très, très défavorisé, au lieu de la compenser, en réalité, le système fait retomber celui qui vient de ce milieu-là par rapport à celui qui a plus de chances. Et pour que le système scolaire devienne un système recréateur d'égalité, qui diminue les inégalités, qui redresse, qui compense, si vous voulez, les phénomènes de base, il faudrait que le système soit très différent de ce qu'il est aujourd'hui. Et donc, c'est triste à dire, mais les 40 ans de dégringolade dans tous les sondages et dans tous les mécanismes et les classements internationaux que je décris dans ce livre ont été en partie payés par la pénalisation de la jeunesse. Alors, je ne suis pas fier de ça. Et je suis heureux de pouvoir, auprès de Canal Académie, partager ma préoccupation.
Eh bien, merci Jacques de la Rosière. Je rappelle le titre de votre livre, 40 ans d'égarements économiques, quelques idées pour en sortir. Vous croyez que c'est possible, nous l'avons compris. Et c'est aux éditions Odile Jacob. À bientôt.
Merci beaucoup. Thank you.